Alors, la semaine dernière, on a parlé des œuvres, des bonnes œuvres. Et moi, je voudrais vous parler du repos. Je ne sais pas comment vous commencez votre année 2017, mais je pense que le Seigneur a un programme pour vous. Alors, le premier texte que je vais lire avec vous, c'est dans Apocalypse 3, verset 14. Je laisse le temps de trouver. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis : Je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que tu ne connais pas que toi, tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour ton amour qui ont inscrit ces mots dans ta parole et je te prie vraiment pour que ce matin tu touches les cœurs et que tu changes notre façon de penser, notre façon de réfléchir, Seigneur, aux choses spirituelles. Et que tu nous donnes, Seigneur, de marcher avec toi, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Amen. Alors, comme je le disais la semaine dernière, on a parlé des œuvres. Et Marc nous a laissé quatre versets à la fin, qui étaient dans Tite. Et je cite que les phrases qui parlent des œuvres. Mais nous étions incités à être un modèle de bonnes œuvres, zélés pour les bonnes œuvres, être prêts à toute bonne œuvre, et être les premiers dans les bonnes œuvres. Là, dans le texte que j'ai lu, dans Apocalypse 3, l'église de Laodicée exerçait aussi des œuvres. Mais pourtant, on lui reproche ses œuvres, parce qu'elles ne sont pas des bonnes œuvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire des choses pour Dieu et être complètement à côté de la plaque. Et pourtant, ce n'est pas des œuvres qui, dans le matériel, si on peut le dire, n'avait pas d'effet, parce qu'au verset 17, il est écrit qu'elle dit « Je suis riche et je me suis enrichie et je n'ai besoin de rien. » Donc ces œuvres qui étaient pratiquées par cette église avaient un effet dans le matériel, mais apparemment pour Dieu, ce n'étaient pas des bonnes œuvres. Le mot « œuvre » est utilisé dans la Bible pour la première fois dans Genèse 2, verset 2, quand Dieu fait la création du monde. Il est écrit « Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout son travail. » Dans ce contexte, c'est Dieu lui-même qui fait les œuvres, et ces œuvres, elles sont attachées au repos. C'est pour ça que je vous parle des œuvres et du repos. Nous avons tendance à associer le mot « œuvre » au mot « travail ». Ça nécessite de l'énergie, ça nécessite de la sueur, des muscles, de la réflexion, etc. Mais Dieu, il associe le mot « œuvre » au mot « repos ». Alors, qu'est-ce que Dieu a dû constater à la fin de la création pour pouvoir se dire « maintenant, je peux me reposer ». En fait, Dieu, quand il a regardé ce qu'il a créé, il a regardé une création qui n'était pas figée, mais une création qui continuait à produire, à se multiplier jusqu'en l'éternité. Et quand il regarde son œuvre qui est parfaite et qui se perpétue, là, il se dit « Je m'accorde du repos ». Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne cette notion du repos de Dieu. Nous, on pourrait dire « Ah ben, le repos, on ne fait rien du tout ». Mais en fait, dans le repos, Dieu il exerce encore des choses, puisqu'on dit qu'il est agissant en nous, sur cette terre, etc. Alors, le repos, c'est quoi? Le repos, c'est le sabbat. Et dans l'Ancien Testament, c'était le septième jour que Dieu avait instauré à la création pour que nous puissions nous reposer de nos œuvres, mais que nous puissions constater aussi que lui, il a fait des choses bonnes. Dans Exode 20, verset 8, il est écrit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Et ça, c'est le troisième commandement. Donc, ça veut dire vraiment que c'était quelque chose d'important. Dans les livres de la loi, Exode 31, il est écrit « Vous travaillerez pendant six jours, mais le septième jour, c'est le sabbat, le jour du repos, qui m'est réservé. Si quelqu'un travaille un jour de sabbat, il faut le faire mourir. » C'était vraiment très important pour Dieu. Et même dans Nombre, il y a cette anecdote où un homme est sorti le jour du sabbat pour ramasser du bois et le peuple l'a mis à l'écart avant de consulter Dieu pour savoir ce qu'il devait faire de lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « L'homme sera mis à mort, que toute l'assemblée le lapide avec des pierres hors du camp. » Donc il ne fallait pas travailler, même si on pourrait dire ramasser du bois, c'est pas vraiment pour faire un commerce, c'est quelque chose de légitime. Il avait froid peut-être ce gars-là. Mais il ne faut pas travailler, et même quand c'est légitime, il faut ne pas continuer à faire les récoltes ou les labours, dans Exode 34-21. Et même dans Néhémie, il est dit que ce jour-là, le peuple de Dieu avait pour interdiction d'acheter des choses que les marchands apportaient pour se nourrir ou pour apporter une offrande à Dieu. Donc le sabbat, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose vraiment qui différenciait le peuple de Dieu des autres peuples. Dieu avait choisi d'attacher son nom à Israël, il avait choisi d'attacher sa gloire à Israël, et il lui avait donné des préceptes et des commandements. Et pour que ce peuple puisse se différencier des autres nations, il fallait qu'il respecte ses préceptes et ses commandements. On pouvait dire en fait que ce peuple montrait son appartenance à Dieu en respectant ses commandements. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui avec ce fameux sabbat? Alors le sens du sabbat pour nous, c'est pas obéir à la loi de l'Ancien Testament, parce que vous avez bien vu, si on faisait rien le dimanche, enfin pour nous c'est le dimanche, et on avait des risques de mort. Mais pour nous, c'est une obéissance spirituelle que Dieu nous demande. Dans Colossiens 2, verset 16, il est écrit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Amen. Mais la réalité est en Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire tout cela et l'ombre des choses à venir? Ça veut dire que l'Ancien Testament a un écho pour nous dans notre vie aujourd'hui parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Je vous donne deux références à noter pour les groupes de maison. Matthieu 11, verset 28 et Matthieu 12, verset 8. C'est Jésus qui parle et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. » Et Matthieu 12, verset 8 « Car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. » Vous ne trouvez pas ça bizarre que Dieu nous dise « J'ai un joug pour vous, j'ai un fardeau pour vous, et vous serez dans le repos ?» Et vous ne trouvez pas bizarre que Jésus soit le maître du sabbat, qui ait besoin de quelqu'un qui règne sur le repos? Moi, je pense que le sabbat, c'est un endroit spirituel où Jésus règne. Et ça veut dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous cette nouvelle loi qui fait que le Seigneur règne. Et c'est là que nous prenons le repos, c'est là que nous vivons le repos. Dans Galates 2, verset 20, il est écrit « Car moi, par la loi, je suis mort à la loi. afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Pour moi, ce verset révèle toute chose. Parce que si nous voulons nous justifier par des œuvres humaines, il n'y a pas d'écho dans l'éternité, il n'y a pas d'écho selon Dieu. Ce ne sont pas des œuvres qui sont bonnes selon lui. Mais si nous mourons à nous-mêmes et que nous exerçons ce que l'Esprit nous demande de faire, alors là, nous sommes dans le repos. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui le fait. On m'a demandé dernièrement, depuis quand j'exerce mon ministère. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis devenue missionnaire. Et quand on m'a posé cette question, j'ai posé une autre question. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire le ministère ? Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on voulait me faire dire, entre parenthèses, c'était « Depuis quand, ça y est, toi, tu fais des choses pour Dieu ?» Et en fait, moi, dans ma tête, c'était à partir du moment où j'ai quitté le royaume de la loi et que je suis passée sous le royaume de la grâce, les œuvres bonnes que j'ai faites, ce sont Dieu qui les a faites en moi. Et c'est pour ça que je suis dans son repos. Donc ce ne sont plus nos œuvres, ce ne sont plus nos efforts, ce ne sont plus nos mérites, mais ce sont ses œuvres parfaites qu'il a déjà préparées par avance pour nous. Donc nous ne devons pas nous inquiéter à l'efficacité de notre ministère, à l'efficacité de notre témoignage, à l'efficacité de tout ce que nous faisons, parce que c'est lui qui va en créer l'incidence, c'est lui qui va permettre que cette œuvre-là ait un effet. Et nous, nous vivons par la foi. Et dans ce cercle vertueux, le fait de rendre à Dieu ce qui est de sa responsabilité, alors nous sommes dans le repos. Éphésiens 2, versets 9 à 10 nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, ça tourne en rond, ça tourne en rond, oui, alors... pas par le principe des œuvres, mais Dieu a quand même préparé des œuvres bonnes que nous devons accomplir. Pourquoi ? Parce que si tu fais quelque chose de bien et que tu dis que c'est toi qui l'as fait, eh ben finalement c'est pas une bonne œuvre. Parce que si vraiment tu es sous la loi spirituelle du royaume, alors tu rends gloire à Dieu et tu dis que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Ésaïe 63, versets 13 à 14, c'est pour vous montrer que les choses anciennes sont l'ombre des choses à venir. C'est quand le peuple de Dieu est dans le désert. Et en fait, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur les conduisait vers un lieu de repos. » Et nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans le repos. Genèse 1 nous dit que nous avons une difficulté, en fait, à être dans le repos parce que nous ne sommes pas créés le septième jour, nous sommes créés le sixième jour. Si nous étions vraiment de la nature de Dieu, nous n'aurions pas cette difficulté. Mais nous sommes du sixième jour, donc nous faisons partie de la création. Et du coup, pour nous, il est difficile de se dire, en ne faisant rien, ça va se faire. J'aimerais qu'on lise Hébreux 4, je sais que c'est très très long, mais s'il en tenait qu'à moi, on s'assierait et on lirait toute la Bible en entier. Hébreux 4. Mais Dieu nous l'a promis, nous entrerons dans son repos, et cette promesse est toujours valable. Alors attention, personne parmi vous ne doit penser qu'il arrive trop tard. On nous a annoncé la bonne nouvelle comme à nos ancêtres, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien. Quand ils l'ont entendu, ils ne l'ont pas reçu en croyant en elle. Hébreux 4, verset 3. Nous avons cru, nous pouvons donc entrer dans le repos de Dieu. Dieu l'a dit. Dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pourtant, Dieu a fini son travail depuis la création du monde. En effet, il y a cette parole au sujet du septième jour. Et Dieu s'est reposé le septième jour de tout son travail. Dieu en parle aussi quand il dit « Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, les premiers n'ont pas obéi. Alors ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. D'autres peuvent donc encore y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour et il l'appelle « aujourd'hui ». Il a parlé de ce jour-là beaucoup plus tard par la bouche de David dans le texte déjà cité. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. » Si Josué avait conduit le peuple dans le repos de Dieu, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du septième jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. Alors, je vais essayer de décanter avec vous tout ça. Le peuple d'Israël avait une destinée. Il n'est pas rentré dedans. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Et donc, Dieu nous a ouvert ce salut à nous, parce que les premières personnes qui l'avaient appelé à rentrer dans son repos ne sont pas rentrées. Et quand il nous appelle, il fixe un jour qui s'appelle « aujourd'hui ». À la fin du texte, au verset 11, il dit « C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. » Ça veut dire que rentrer dans le repos de Dieu nécessite une obéissance. Le peuple de Dieu n'a pas obéi, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans le repos. Mais nous, nous connaissons et nous savons la bonne nouvelle et nous voulons rentrer dans ce repos. Aussi, dans le texte d'Apocalypse 3, je pense que l'Église n'a pas obéi, elle n'est pas rentrée dans le repos, parce que sinon on ne lui ferait pas de reproches, on ne lui donnerait pas de... Enfin, quand vous relisez, en gros, vous dites, mais en fait, elle croit qu'elle est riche, elle croit qu'elle est vêtue, elle croit qu'elle est bien, mais en fait, elle est complètement à côté de la plaque. Donc, à mon avis, elle exerce quelque chose, mais elle n'est pas dans le repos et elle n'est pas agréable à Dieu. Et donc, elle n'a pas obéi. Le repos, selon Dieu, ce n'est pas l'absence d'action, mais c'est les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres se font par le Saint-Esprit. Jean 5, verset 36 nous dit « Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, c'est Jésus qui parle, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres mêmes que je fais rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. » Alors même Jésus, il ne devait pas exercer ses œuvres à lui, mais il devait exercer les œuvres que Dieu lui avait demandé d'accomplir. À cause de cela, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses un jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi, je travaille. » Vous comprenez l'équilibre spirituel ? Il nous faut exercer les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous pour qu'il y ait une efficacité dans ce monde. Et quand nous sommes dans cette efficacité, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc, puisque c'est le Saint-Esprit qui agit, puisque le Saint-Esprit est en effusion sur la terre, eh bien, nous sommes dans le repos. Et ça, c'est le sabbat auquel nous devons nous obéir. Il y a un passage dans Luc 12 qui nous le dit. Alors là, c'est quand Jésus envoie ses disciples et qu'il leur dit de ne pas s'inquiéter si jamais ils vont au tribunal et qu'il faut se justifier. Il dit « Et quand ils vous mèneront devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou quelle chose vous répondrez ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et là, c'est le repos. En fait, Jésus leur dit « Ok, on vous emmène au tribunal. » Ne stressez pas. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va vous dire ce qu'il faut dire. Alors vous allez me dire, ben oui, ok, les œuvres c'est quoi? Les œuvres du Saint-Esprit. Alors Galates 5, 22 nous en donne toute une définition. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Ne soyons pas orgueilleux entre nous, pas de dispute entre nous, pas de jalousie. Vous comprenez? C'est sûr que humainement, on ne peut pas tous rester dans l'église, on ne peut pas tous jouer, travailler, être ensemble, vivre ensemble. C'est compliqué, on n'est pas tous pareils. Mais si le Saint-Esprit agit en nous et est le moteur de toutes nos actions, alors, oui, ce seront des bonnes œuvres et on sera même étonné de s'aimer, de se supporter, de s'aider, d'être patient. On sera étonné, mais ce sera vraiment l'œuvre du Seigneur. Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. J'ai un exemple dans Matthieu 26, verset 38. C'est quand Jésus est au jardin de Gethsémané et qu'il sait très bien qu'il approche de la croix et qu'il lui faut vraiment que le Saint-Esprit prenne le relais parce que humainement, ça ne passera pas. Il est écrit, alors il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Pour ceux qui ne pensent pas que Jésus est Seigneur, et ce passage le prouve clairement. Jésus a une destinée, Jésus a une bonne œuvre à accomplir, et contrairement à l'énoncé bonne œuvre, ce n'est pas forcément que des œuvres faciles à accomplir, mais c'est des œuvres qui s'accomplissent dans l'obéissance. Et là, au jardin de Gethsémané, Jésus est face à sa destinée, il doit aller à la croix. Et en plus, il le sait. Il dit, mon âme est triste à la mort. Ça, c'est l'âme, c'est les sentiments, c'est humainement pensant. Jésus, il est au bout de lui-même, et voilà, il est triste à la mort. Et il demande à ses disciples de demeurer avec lui et de prier. Ça, c'est quand, par exemple, on sait que Dieu nous envoie quelque part et qu'on cherche à droite, à gauche, un soutien. On dit à nos frères et sœurs, vas-y, prie pour ça, etc. Mais des fois, le secours ne vient pas des hommes. Et souvent, le secours ne vient pas des hommes, parce que les disciples, ils se sont endormis. Ouais. Et Jésus est venu trois fois. Et se mettant à l'écart, il sait très bien qu'il doit revenir au pied de Dieu pour trouver la force pour continuer cette bonne œuvre. Et il prie, il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Et je pense qu'entre cette phrase et « Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux », le Saint-Esprit a témoigné à son esprit que cette œuvre était l'œuvre de Dieu. Parce qu'il dit bien, si on pouvait éviter la croix. Et tout de suite après, non, ta volonté, pas la mienne. Et là, c'est ça la bonne œuvre que Jésus a accomplie. Et c'est comme ça que nous devons agir dans nos vies de tous les jours. Rechercher ce que le Saint-Esprit veut vraiment que nous fassions. Il nous guide. Il nous guide. Il a guidé Israël pour qu'il sorte d'Égypte. Et le Saint-Esprit nous guide aussi pour que nous puissions tous les jours accomplir la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu s'accomplit et que son fardeau est léger et que la charge n'est pas lourde. C'est parce que le Saint-Esprit nous montre clairement ce qu'on doit faire. Alors comment trouver le repos? Tout simplement en cherchant où Dieu réside, où Dieu demeure. Psaume 91, verset 1 nous dit « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. » Les premiers disciples qui avaient quitté Jean et qui arrivaient face à Jésus lui ont demandé « Mais maître, où demeures-tu ?» C'est bizarre comme question. Où demeures-tu ? Dans Jean 1, verset 35. Jésus, voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Pour demeurer dans la demeure du Tout-Puissant, il faut être attaché à Christ. C'est l'image des sarments. Dans Jean 15, versets 1 à 5, Jésus leur dit « Restez attachés à moi comme moi je suis attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Là, il dit « Vous ne pouvez pas donner de fruits », mais moi j'entends « Vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres ». Parce que, par exemple, en apparence, on peut avoir un arbre touffu comme le figuier que Jésus a maudit. Il y avait du feuillage, on pourrait dire « Il y a la vie ». Mais quand Jésus s'est rapproché, il n'y avait pas de fruits. Et il l'a maudit. Et on pourrait dire « Oh là là, il est radical le Seigneur, attention hein. ». Mais c'est vrai, parce qu'on peut produire du fruit humainement, mais si ce n'est pas les fruits que le Seigneur nous demande de produire, eh ben c'est comme si il n'y a pas de fruits, c'est comme si il n'y a que des feuilles. Et la sève, c'est le Saint-Esprit. Les sarments demeurent sur le cep, sinon ils ne portent pas de bons fruits. Les bonnes œuvres, elles ne sont pas mesurées à l'œil humain, elles sont mesurées à la mesure de Dieu. Et c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il nous est réservé de demeurer pour toujours dans la maison de Dieu, car nous sommes ses enfants, et non des esclaves. Et là, j'aimerais faire cette image, enfin, j'aimerais vous donner une image pour que vous puissiez faire la différence entre les bonnes œuvres et entre l'activisme ou l'activité. Dans Jean 8, versets 35 à 36, il est écrit « Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le fils y demeure pour toujours. » Et l'esclave, c'est qui ? L'esclave, c'est la personne qui va faire les activités, qui va faire le ménage, qui va faire les courses, qui va servir le maître. Il est tout le temps en train de faire quelque chose. Si le maître prend son verre et qu'il n'y a pas d'endroit pour le poser, il va accourir pour attraper le verre. L'esclave, il est dans l'activité. Et c'est comme ça que nous nous fatiguons, parce que nous courons à faire des activités à droite à gauche, mais ce ne sont pas des activités qui sont demandées par Dieu. Ce ne sont pas des œuvres que Dieu nous demande de faire. Alors que le fils, il demeure dans la maison. Le fils, il est héritier. Le fils, il va obéir quand le maître va lui dire « Fais ça », il va le faire. Le fils, il va être envoyé quelque part pour représenter son père. Des fois, on a envoyé le fils, l'héritier, pour représenter un roi, pour représenter à tel événement. Voilà, le roi peut pas se déplacer. On envoie le fils, on envoie la descendance. Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. » Sous l'ancienne alliance, l'errance, c'est la punition de Caïn quand il a tué son frère. Dieu lui dit « Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert. Et souvent, nous, on cherche, on est à l'affût de ce que Dieu pourrait vouloir faire en nous, ou qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse, et nous errons. On teste ci, on teste ça, on va par là, on court dans une église, on va dans une autre. Et on erre. Alors que si nous demeurons au pied du Seigneur, comme Marie a su demeurer au pied de Jésus, notre part ne sera pas ôtée. Ce que nous allons recevoir va être évident. Et les œuvres que nous allons pratiquer auront une efficacité. Moïse allait dans la tente. J'allais dire de temps en temps. Au moins, il y allait. Il allait à la tente, mais il ressortait. Josué, lui, Il allait dans la tente et il demeurait. Et qui a guidé le peuple d'Israël en Canaan? C'est Josué. Il nous faut demeurer dans la tente. Il faut que nous connaissions Dieu. Il faut que nous connaissions ce que Dieu veut de nous. Quelles sont les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. J'ai trouvé une version d'Éphésiens 4, verset 11, que je trouve intéressante parce que je crois que c'est la version Darby qui dit. Vous savez, c'est quand on cite et il a donné les uns comme docteur, pasteur, là, 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 là. Et il y en a qui doivent donner la bonne nouvelle. Et dans la version Darby, il est écrit « D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu. » Et je trouve ça très intéressant. Parce que, sans doute, dans certaines traductions, le mot en hébreu devait dire quelque chose de bien plus profond que juste parler au peuple ou enseigner le peuple, etc. Et cette notion de conduire, c'est comme Josué qui conduit le peuple à sa destinée. Et c'est comme chacun de nous, quand nous emmenons quelqu'un à Christ, ou quand nous aidons le peuple de Dieu à avancer dans une direction, parce que nous faisons des bonnes œuvres. Il n'y a pas que le pasteur qui doit travailler et avoir une efficacité, mais chacun d'entre nous, là où nous sommes, en pratiquant des bonnes œuvres, nous conduisons, nous construisons le corps de Christ. Et d'ailleurs, c'est écrit à la fin. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Qu'est-ce qui peut nous donner une même foi si ce n'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'on peut se mettre d'accord comme ça sur une interprétation de la Bible? C'est le Saint-Esprit qui doit créer l'unité entre nous. Et nous devons être à son écoute. Psaume 27, verset 4. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Les gens qui viennent à Dieu pour être sauvés, mais qui ne rentrent pas dans le sabbat spirituel, comme je l'ai dit, dans le repos, dans les œuvres qu'il a préparées par avance, restent dans le désert. Et quand on voit dans Apocalypse, ce qui est reproché à cette église, c'est quand même grave, parce que pourtant c'est une église. C'est pas aux païens qu'on s'adresse, c'est à une église. Une église qui est en action, une église qui a des œuvres et qui a un résultat. Mais c'est dans le matériel, c'est pas dans le spirituel. Et il est écrit que Dieu reprend parce qu'il aime. Dieu fait pas juste un constat pour dire « Bon, ben, toi, voilà, tu t'es planté. Voilà. » Non, Dieu, il reprend celui qu'il aime. Il se tient à la porte et il frappe. Et il dit à la fin « Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. » Donc ça veut dire que Dieu veut demeurer avec nous. Je l'ai cité tout à l'heure, Marie, Marthe, Luc 10, verset 41, Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. » Moi, je pense qu'elle n'est pas dans le repos, là. Mais il n'est besoin que d'une seule chose. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alors arrêtez de chercher à gauche, à droite, ce que Dieu veut de vous, quelles sont les œuvres que vous devez accomplir. Laissez le Saint-Esprit vous remplir et il conduira toutes choses. Et vous verrez que passer du temps au pied du Seigneur, eh ben vous serez dans le repos, vous ne serez pas dans l'inquiétude, vous ne serez pas dans, je sais pas, le stress de l'efficacité de votre témoignage ou comment je peux parler à ma famille ou comment je peux parler à mon patron ou comment être une lumière. Venez d'abord demeurer auprès de Dieu et après les gens vont voir l'éclat de Dieu. Vous n'aurez même pas à parler, ils vont dire « Attends, mais ce gars-là, il y a quelque chose, je le suis. » Hébreux 4, verset 10 « En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. » C'est un mode de vie. chaque jour, tant qu'il y a un aujourd'hui, il faut que nous prenions la décision d'être dans le repos. Et pour être dans le repos, il faut laisser le Saint-Esprit nous guider. Hébreux 3, verset 9. Il nous dit, verset 7, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre comme lorsque vous étiez révoltés contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. » Et un peu plus loin, il écrit, « Leurs pensées s'égarent sans cesse, ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. » Donc ça veut bien dire que Dieu attend quelque chose de nous. Il attend quelque chose de nous. Il attend que nous exercions ses bonnes œuvres. Des fois, on se dit, ok, donc, voilà, il faut que je reste au pied du Seigneur et que j'attende, que je sois dans le repos. Et on associe humainement le repos à l'absence d'activité. Et si vous relisez le psaume que j'ai cité tout à l'heure, 91.1, Dieu nous dit qu'on sera dans le repos parce que lui va combattre pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ce sera calme, au bord d'une plage, avec le petit verre de punch à la main. Non. Quand Dieu a dit « Je vais vous donner une terre promise », entre parenthèses, sous-titrage, il faudra faire la guerre au peuple qui est déjà installé dans cette terre. Josué n'était pas quelqu'un qui était, berger. Josué était un guerrier. Et dans chaque tribu d'Israël, il y avait des guerriers. Et quand ils sont rentrés en Canaan, ils sont rentrés d'abord pour se battre, pour enlever le peuple qui était présent. Il faut être prêt à se battre, parce que l'ennemi, lui, il ne va pas vous laisser vous dorer au soleil. Il y a un combat spirituel, parce que si c'était facile, on ne serait pas là. On ne serait pas là à essayer de s'exhorter, à essayer d'avancer, à essayer de continuer. Mais si nous restons au pied du Seigneur, il dit bien qu'il nous délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il nous couvrira de ses plumes et sous son aile, nous aurons un refuge. Sa vérité sera notre bouclier. Nous n'aurons pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Ça veut dire qu'il faut bien se battre. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement, tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants, parce que toi, tu as mis l'Éternel, ton refuge, le Très-Haut, pour ta demeure. Donc, vous voyez bien que Dieu ne nous promet pas un super chemin pavé de roses, mais à partir du moment où il y a l'obéissance, il va y avoir un résultat. Et ce résultat, c'est que nous allons être au pied du Seigneur, il va s'occuper de tous nos combats, et nous allons pouvoir accomplir des bonnes œuvres. Ce pourquoi il a, entre parenthèses, planché depuis la création du monde. Ceux qui ont suivi Josué ont été obéissants. Et ils ont obéi, on va dire, à l'aveugle, limite, parce que les stratégies de Dieu pour rentrer dans Jéricho, pour rentrer dans la terre promise, ce n'est pas des stratégies militaires normales. Quand il envoie les Lévites avec les trompettes, quand il leur dit de casser des cruches, ce n'est pas une stratégie militaire. Dieu ne recherchait pas à faire un éclat auprès des peuples présents, il cherchait juste à voir jusqu'où son peuple allait obéir pour lui accorder la victoire. Et Jésus nous en a montré l'exemple. Lui-même, il est venu accomplir les œuvres de son Père. Je vais vous relire les 4 passages qui ont été donnés la semaine dernière à la fin du culte, dans Tite 2, verset 7, Tite 2, verset 14, Tite 3, verset 1 et Tite 3, verset 8. Te montrant toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté de doctrine. Afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifia pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'être obéissant, d'être prêt à toutes bonnes œuvres. Et cette parole est certaine, et je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Soyez encouragés à accomplir des bonnes œuvres. Peut-être que ce ne sont pas des œuvres logiques, des œuvres qui matériellement vous semblent normales, mais Dieu va vous guider dans tout ce que vous aurez à faire. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un résultat. Là, vous allez voir des personnes qui vont être touchées, qui vont se convertir. Vous allez pouvoir porter du fruit, du bon fruit, et vous allez être tellement étonné de tout ce que Dieu va faire que vous pourrez vraiment lui rendre gloire. Ne soyons pas comme cette église qui a fait, on va dire, son programme et qui a tout loupé. J'aimerais qu'on prie. Seigneur, je te remercie parce que ta parole, elle est cohérente, même si moi, je ne sais pas bien la délivrer. Dans l'Ancien Testament, tu montres comment ton peuple s'est trompé. Et dans le Nouveau Testament, tu montres combien tu veux faire grâce. Tu montres comment Jésus a été un modèle d'obéissance. Et tu nous montres aussi, Seigneur, que nous sommes appelés à être pas plus que le Maître. Je te prie et je te remercie, Seigneur, pour cette Église. Je te demande, Seigneur, de nous aider à grandir les uns avec les autres, que nous n'en oublions pas un, que nous ayons égard les uns pour les autres, et que nous puissions, avec amour, paix, patience, fidélité, nous occuper les uns des autres et exercer déjà ces œuvres au milieu de nous pour que le monde à l'extérieur puisse les voir. Je sais que c'est comme ça que tu vas nous changer, je sais que c'est comme ça que tu vas nous transformer. Donne-nous de demeurer à tes pieds. Ainsi, le Saint-Esprit nous donnera cette même foi. Et il n'y aura plus de querelle, il n'y aura plus de discorde, parce que nous agirons par l'Esprit. Je te remets chacun d'entre nous, je te remets les familles que nous représentons, je te remets les endroits où nous travaillons, je te remets les endroits où nous habitons. Je te prie vraiment pour que là où nous sommes, il y ait une lumière qui soit diffusée, et que cette lumière, ce soit toi. Parce que ton œuvre est parfaite, parce que ton œuvre a une efficacité jusqu'en l'éternité, et nous voulons faire partie de cette œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Soyez encouragés.